Alfred de Musset, Histoire d'un merle blanc. Qu'il est glorieux, mais qu'il est pénible, d'être en ce monde un merle exceptionnel. Je ne suis point un oiseau fabuleux, et Monsieur de Buffon m'a décrit, mais hélas, je suis extrêmement rare et très difficile à trouver, plût au ciel que je fusse tout à fait impossible. Mon père et ma mère étaient deux bonnes gens qui vivaient, depuis nombre d'années, au fond d'un vieux jardin retiré du marais. C'était un ménage exemplaire. Pendant que ma mère, assise dans un buisson fourré, pondait régulièrement 3 fois par an et couvait tout en sommeillant avec une religion patriarcale, mon père, encore fort propre et fort pétulant, malgré son grand âge, picorait autour d'elle toute la journée, lui apportant de beaux insectes qu'il saisissait délicatement par le bout de la queue pour ne pas dégoûter sa femme, et la nuit venue, il ne manquait jamais, quand il faisait beau, de la régaler d'une chanson qui réjouissait tout le voisinage. Jamais une querelle, jamais le moindre nuage n'avait troublé cette douce union. À peine fus-je venu au monde, que pour la première fois de sa vie, mon père commença à montrer de la mauvaise humeur. Bien que je ne fusse encore que d'un gris douteux, il ne reconnaissait en moi ni la couleur ni la tournure de sa nombreuse postérité. « Voilà un sale enfant, » disait-il quelquefois en me regardant de travers. « Il faut que ce gamin-là aille apparemment se fourrer dans tous les plâtras et tous les tas de boue qu'il rencontre pour être toujours si laid et si crotté. » « Mon Dieu, mon ami, » répondait ma mère, toujours roulée en boule dans une vieille écuelle dont elle avait fait son nid, « ne voyez-vous pas que c'est de son âge? Et vous-même, dans votre jeune temps, n'avez-vous pas été un charmant vaurien? Laissez grandir notre merlichon, et vous verrez comme il sera beau. Il est des mieux que j'ai pondus. » Tout en prenant ainsi ma défense, ma mère ne s'y trompait pas. Elle voyait pousser mon fatal plumage qui lui semblait une monstruosité. Mais elle faisait comme toutes les mères qui s'attachent souvent à leurs enfants par cela même qu'ils sont maltraités de la nature, comme si la faute en était à elle ou comme si elle repoussait à l'avance la justice du sort qui doit les frapper. Quand vint le temps de ma première mue, mon père devint tout à fait pensif et me considéra attentivement. Tant que mes plumes tombèrent, il me traita encore avec assez de bonté et me donna même la pâtée, me voyant grelotter presque nu dans un coin. Mais dès que mes pauvres ailerons transis commencèrent à se recouvrir de duvet, à chaque plume blanche qu'il vit paraître, il entra dans une telle colère que je craignais qu'il ne me plumât pour le reste de mes jours. Hélas, je n'avais pas de miroir, j'ignorais le sujet de cette fureur, et je me demandais pourquoi le meilleur des pères se montrait pour moi si barbare. Un jour qu'un rayon de soleil et ma fourrure naissante m'avaient mis malgré moi le cœur en joie, comme je voltigeais dans une allée, je me mis, pour mon malheur, à chanter. À la première note qu'il entendit, mon père sauta en l'air comme une fusée. « Qu'est-ce que j'entends là ? » s'écria-t-il. « Est-ce ainsi qu'un merle siffle ? Est-ce ainsi que je siffle ? Est-ce là siffler ?» Et, s'abattant près de ma mère avec la contenance la plus terrible, « Malheureuse, dit-il, qu'est-ce qui a pondu dans ton nid ?» À ces mots, ma mère indignée s'élança de son écuelle, non sans se faire du mal à une patte. Elle voulut parler, mais ses sanglots la suffoquaient. Elle tomba à terre à demi pâmée. Je la vis près d'expirer. Épouvanté et tremblant de peur, je me jetai aux genoux de mon père. « Oh, mon père, lui dis-je, Si je siffle de travers et si je suis mal vêtu, que ma mère n'en soit point punie. Est-ce sa faute si la nature m'a refusé une voix comme la vôtre? Est-ce sa faute si je n'ai pas votre beau bec jaune et votre bel habit noir à la française qui vous donne l'air d'un marguillier en train d'avaler une omelette? Si le ciel a fait de moi un monstre et si quelqu'un doit en porter la peine, que je sois au moins le seul malheureux. Il ne s'agit pas de cela, dit mon père. Que signifie la manière absurde dont tu viens de te permettre de siffler? Qui t'a appris à siffler ainsi, contre tous les usages et toutes les règles? Hélas, monsieur, répondis-je humblement, je sifflais comme je pouvais, me sentant gai parce qu'il fait beau, ayant peut-être mangé trop de mouches. On ne siffle pas ainsi dans ma famille, reprit mon père hors de lui. Il y a des siècles que nous sifflons de père en fils, et lorsque je fais entendre ma voix la nuit, apprends qu'il y a ici, au premier étage, un vieux monsieur et au grenier une jeune grisette qui ouvrent leurs fenêtres pour m'entendre. N'est-ce pas assez que j'ai devant les yeux l'affreuse couleur de tes sottes plumes qui te donnent l'air enfariné comme un paillasse de la foire? Ah, si je n'étais le plus pacifique des merles, je t'aurais déjà 100 fois mis à nu, ni plus ni moins qu'un poulet de basse-cour, prêt à être embroché. Eh bien, m'écriai-je, révolté de l'injustice de mon père, s'il en est ainsi, monsieur, qu'à cela ne tienne, je me déroberai à votre présence, je délivrerai vos regards de cette malheureuse queue blanche par laquelle vous me tirez toute la journée. Je partirai, monsieur, je fuirai. Assez d'autres enfants consoleront votre vieillesse, puisque ma mère pond 3 fois par an. J'irai loin de vous, cacher ma misère, et peut-être, ajoutai-je en sanglotant, peut-être trouverai-je là, dans le potager du voisin, ou sur les gouttières, quelques vers de terre ou quelques araignées pour soutenir ma triste existence. Comme tu voudras, répliqua mon père, loin de s'attendrir à ce discours. Que je ne te vois plus, tu n'es pas mon fils, non, tu n'es pas un merle. Alors, que suis-je donc, monsieur, s'il vous plaît? Non, c'est rien, mais tu n'es pas un merle. Après ces paroles foudroyantes, mon père s'éloigna à pas lents. Ma mère se releva tristement et alla, en boitant, achever de pleurer dans son écuelle. Pour moi, confus et désolé, je pris mon vol du mieux que je pus, et j'allais, comme je l'avais annoncé, me percher sur la gouttière d'une maison voisine. Chapitre 2. Mon père eut l'inhumanité de me laisser pendant plusieurs jours dans cette situation mortifiante. Malgré sa violence, il avait bon cœur, et au regard détourné qu'il me lançait, je voyais bien qu'il aurait voulu me pardonner et me rappeler. Ma mère, surtout, levait sans cesse vers moi des yeux pleins de tendresse et se risquait même parfois à m'appeler d'un petit cri plaintif. Mais mon horrible plumage blanc leur inspirait, malgré eux, une répugnance et un effroi auxquels je vis bien qu'il n'y avait point de remède. « Je ne suis point un merle, me répétais-je. » Et en effet, en m'épluchant le matin et en me mirant dans l'eau des gouttières, je ne reconnaissais que trop certainement combien je ressemblais peu à ma famille. « Oh, ciel, répétais-je encore, apprends-moi donc ce que je suis. » Une certaine nuit qu'il pleuvait à verse, j'allais m'endormir exténué de faim et de chagrin, lorsque je vis se poser près de moi un oiseau plus mouillé, plus pâle et plus maigre que je ne le croyais possible. Il était à peu près de ma couleur, autant que j'en pus juger à travers la pluie qui nous inondait. À peine avait-il sur le corps assez de plumes pour habiller un moineau, et il était plus gros que moi. Il me sembla au premier abord un oiseau tout à fait pauvre et nécessiteux. Mais il gardait, en dépit de l'orage qui maltraitait son front presque tendu, un air déserté qui me charma. Je lui fis modestement une grande révérence, à laquelle il répondit par un coup de bec qui faillit me jeter à bas de la gouttière. Voyant que je me grattais l'oreille et que je me retirais avec componction sans essayer de lui répondre en sa langue, « Qui es-tu ? » me demanda-t-il d'une voix aussi enrouée que son crâne était chauve. « Hélas, mon seigneur, répondis-je, craignant une seconde estocade, je n'en sais rien. Je crois être un merle, mais on m'a convaincu que je n'en suis pas un. » La singularité de ma réponse et mon air de sincérité l'intéressèrent. Il s'approcha de moi et me fit conter mon histoire, ce dont je m'acquittais avec toute la tristesse et toute l'humilité qui convenaient à ma position et au temps affreux qu'il faisait. « Si tu étais un ramier comme moi, me dit-il après m'avoir écouté, les niaiseries dont tu t'affliges ne t'inquiéteraient pas un moment. Nous voyageons, c'est là notre vie, et nous avons bien nos amours, mais je ne sais qui est mon père. Fendre l'air, traverser l'espace, voir à nos pieds les monts et les plaines, respirer l'azur même des cieux et non les exhalaisons de la terre, courir comme la flèche à un but marqué qui ne nous échappe jamais, voilà notre plaisir et notre existence. Je fais plus de chemin en un jour qu'un homme n'en peut faire en 10. Sur ma parole, monsieur, dis-je un peu enhardi, vous êtes un oiseau bohémien.
C'est encore une chose dont je ne me soucie guère, reprit-il. Je n'ai point de pays, je ne connais que 3 choses, les voyages, ma femme et mes petits. Où est ma femme? Là est ma patrie.
Mais qu'avez-vous là qui vous pend au cou? C'est comme une vieille papillote chiffonnée.
Ce sont des papiers d'importance, répondit-il en se rengorgeant. Je vais à Bruxelles de ce pas et je porte au célèbre banquier, hein, une nouvelle qui va faire baisser la rente d'un franc 78 centimes.
Juste Dieu, m'écriai-je, c'est une belle existence que la vôtre, et Bruxelles, j'en suis sûr, doit être une ville bien curieuse à voir. Ne pourriez-vous pas m'emmener avec vous, puisque je ne suis pas un merle, je suis peut-être un pigeon ramier.
Oh, si tu en étais un, répliqua-t-il, tu m'aurais rendu le coup de bec que je t'ai donné tout à l'heure.
Eh bien, monsieur, je vous le rendrai. Ne nous brouillons pas pour si peu de choses. Voilà le matin qui paraît, l'orage qui s'apaise. De grâce, laissez-moi vous suivre. Je suis perdu, je n'ai plus rien au monde. Si vous me refusez, il ne me reste plus qu'à me noyer dans cette gouttière.
Eh bien, en route, suis-moi si tu peux.
Je jetai un dernier regard sur le jardin où dormait ma mère. Une larme coula de mes yeux. Le vent et la pluie l'emportèrent. J'ouvris mes ailes et je partis. Chapitre 3. Mes ailes, je l'ai dit, n'étaient pas encore bien robustes. Tandis que mon conducteur allait comme le vent, je m'essoufflais à ses côtés. Je tins bon pendant quelque temps, mais bientôt il me prit un éblouissement si violent que je me sentis près de défaillir. « Oh, y en a-t-il encore pour longtemps ? » demandai-je d'une voix faible.
« Non, me répondit-il, nous sommes au Bourget, nous n'avons plus que 60 lieues à faire. »
J'essayai de reprendre courage, ne voulant pas avoir l'air d'une poule mouillée, et je volais encore un quart d'heure, mais pour le coup j'étais rendu. « Monsieur, bégayai-je de nouveau, ne pourrait-on pas s'arrêter un instant? J'ai une soif horrible qui me tourmente, et en nous perchant sur un arbre,
Va-t'en au diable, tu n'es qu'un merle,
me répondit le rami en colère. Et sans daigner tourner la tête, il continua son voyage enragé. Quant à moi, abasourdi et n'y voyant plus, je tombai dans un champ de blé. J'ignore combien de temps dura mon évanouissement. Lorsque je repris connaissance, ce qui me revint d'abord en mémoire fut la dernière parole du ramier. « Tu n'es qu'un merle, » m'avait-il dit. « Oh, mes chers parents, pensais-je, vous vous êtes donc trompés. Mais je vais retourner près de vous. Vous me reconnaîtrez pour votre vrai et légitime enfant, et vous me rendrez ma place dans ce bon petit tas de feuilles qui est sous l'écuelle de ma mère. » Je fis un effort pour me lever, mais la fatigue du voyage et la douleur que je ressentais de ma chute me paralysaient tous les membres. À peine me fus-je dressé sur mes pattes que la défaillance me reprit et je retombai sur le flanc. L'affreuse pensée de la mort se présentait déjà à mon esprit lorsque, à travers les bluets et les coquelicots, je vis venir à moi, sur la pointe du pied, deux charmantes personnes. L'une était une petite pie, fort bien mouchetée et extrêmement coquette, et l'autre une tourterelle, couleur de rose. La tourterelle s'arrêta à quelques pas de distance avec un grand air de pudeur et de compassion pour mon infortune, mais la pie s'approcha en sautillant de la manière la plus agréable du monde. Eh bien, mon pauvre enfant, que faites-vous ici? Me demanda-t-elle d'une voix folâtre et argentine. Hélas, madame la marquise, répondis-je, car c'en devait être une pour le moins. Je suis un pauvre diable de voyageur que son postillon a laissé en route. Je suis en train de mourir de faim.
Sainte Vierge, que me dites-vous? Répondit-elle,
et aussitôt elle se mit à voltiger çà et là sur les buissons qui nous entouraient, allant et venant de côté et d'autre, m'apportant quantité de baies et de fruits dont elle fit un petit tas près de moi, tout en continuant ses questions.
Mais qui êtes-vous? Mais d'où venez-vous? C'est une chose incroyable que votre aventure. Et où allez-vous? Voyagez seul si jeune, car vous sortez de votre première mue. Que font vos parents? D'où sont-ils? Comment vous laissent-ils aller dans cet état-là? Mais c'est à faire tresser les plumes sur la tête.
Pendant qu'elle parlait, je m'étais soulevé un peu de côté et je mangeais de grand appétit. La tourterelle restait immobile, me regardant toujours d'un œil de pitié. Cependant, elle remarqua que je retournais la tête d'un air languissant, et elle comprit que j'avais soif. De la pluie tombée dans la nuit, une de goutte d'eau restait sur un brin de mouron. Elle recueillit timidement cette goutte dans son bec et me la porta toute fraîche. Certainement, si je n'eusse pas été si malade, une personne si réservée ne se serait jamais permis une pareille démarche. Je ne savais pas encore ce que c'était que l'amour, mais mon cœur battait violemment. Partagé entre des émotions diverses, j'étais pénétré d'un charme inexprimable. Ma panetière était si gaie, mon échanson si expansif et si doux, que j'aurais voulu déjeuner ainsi pendant toute l'éternité. Malheureusement, tout a un terme, même l'appétit d'un convalescent. Le repas fini et mes forces revenues, je satisfis la curiosité de la petite pie et lui racontai mes malheurs avec autant de sincérité que je l'avais fait la veille devant le pigeon. La pie m'écouta avec plus d'attention qu'il ne semblait devoir lui appartenir, et la tourterelle me donna des marques charmantes de sa profonde sensibilité. Mais Lorsque j'en fus à toucher le point capital qui causait ma peine, c'est-à-dire l'ignorance où j'étais de moi-même. Plaisantez-vous, s'écria la pie, vous un merle, vous un pigeon, et donc. Mais vous êtes une pie, mon cher enfant. Pie s'il en fut, et très gentille pie, ajouta-t-elle, en me donnant un petit coup d'aile, comme qui dirait un coup d'éventail. Mais, madame la marquise, répondis-je, il me semble que pour une pie, je suis d'une couleur, enfin ne vous en déplaise. Une pie russe, mon cher, vous êtes une pie russe. Vous ne savez pas qu'elles sont blanches. Pauvre garçon, quelle innocence! Mais, madame, repris-je, comment serais-je une pie russe, étant née au fond du marais, dans une vieille écuelle cassée? Ah, le bon enfant! Vous êtes de l'invasion, mon cher. Croyez-vous qu'il n'y ait que vous? Fiez-vous à moi et laissez-vous faire. Je veux vous emmener tout à l'heure et vous montrer les plus belles choses de la terre. Mais où cela, madame, s'il vous plaît? Dans mon palais vert, mon mignon. Vous verrez quelle vie on y mène. Vous n'aurez pas plutôt été pie un quart d'heure que vous ne voudrez plus entendre parler d'autre chose. Nous sommes là une centaine, non pas de ces grosses pies de village qui demandent l'aumône sur les grands chemins, mais toutes nobles et de bonne compagnie, effilées, lestes, et puis plus grosses que le poing. Pas une de nous n'a plus ni moins de 7 marques noires et de 5 marques blanches. C'est une chose invariable, et nous méprisons le reste du monde. Les marques noires vous manquent, il est vrai, mais votre qualité de russe suffira pour vous faire admettre. Notre vie se compose de 2 choses, caqueter et nous attiffer. Depuis le matin jusqu'à midi, nous nous attiffons, et depuis midi jusqu'au soir, nous caquetons. Chacune de nous perche sur un arbre, le plus haut et le plus vieux possible. Au milieu de la forêt s'élève un chêne immense, inhabité, hélas. C'était la demeure du feu roi Pidis, où nous allons en pèlerinage en poussant de bien gros soupirs. Mais à part ce léger chagrin, nous passons le temps à merveille. Nos femmes ne sont pas plus bégueules que nos maris ne sont jaloux, mais nos plaisirs sont purs et honnêtes, parce que notre cœur est aussi noble que notre langage est libre et joyeux. Notre fierté n'a pas de borne, et si un jet ou tout autre canaille vient par hasard à s'introduire chez nous, nous le plumons impitoyablement. Mais nous n'en sommes pas moins les meilleurs gens du monde, et les passereaux, les mésanges, les chardonnerets qui vivent dans nos taillis nous trouvent toujours prêts à les aider, à les nourrir et à les défendre. Nulle part il n'y a plus de caquetage que chez nous, et nulle part moins de médisance. Nous ne manquons pas de vieilles pies dévotes qui disent leur patelotre toute la journée, mais la plus éventée de nos jeunes commères peut passer sans crainte d'un coup de bec près de la plus sévère douairière. En un mot, nous vivons de plaisir, d'honneur, de bavardage, de gloire et de chiffon. Ah, voilà qui est fort beau, madame, répliquai-je, et je serais certainement mal appris de ne point obéir aux ordres d'une personne comme vous. Mais, avant d'avoir l'honneur de vous suivre, permettez-moi de grâce de dire un mot à cette bonne demoiselle qui est ici. Mademoiselle, continuai-je en m'adressant à la tourterelle, parlez-moi franchement, je vous en supplie. Pensez-vous que je sois véritablement une pie russe? À cette question, la tourterelle baissa la tête et devint rouge pâle, comme les rubans de Lolotte. Monsieur, dit-elle, je ne sais si je puis. Oh, mais au nom du ciel, parlez, mademoiselle. Mon dessein n'a rien qui puisse vous offenser, bien au contraire. Vous me paraissez toutes deux si charmantes que je fais ici le serment d'offrir mon cœur et ma patte à celle de vous qui en voudra, dès l'instant que je saurai si je suis pie ou autre chose. Car en vous regardant, ajoutai-je, parlant un peu plus bas à la jeune personne, je me sens je ne sais quoi de tourtereau qui me tourmente singulièrement. Mais en effet, dit la tourterelle en rougissant encore davantage, je ne sais si c'est le reflet du soleil qui tombe sur vous à travers ces coquelicots, mais votre plumage me semble avoir une légère teinte. Elle n'osa en dire plus long. Oh, perplexité, m'écriai-je, comment savoir à quoi m'en tenir, mais comment donner mon nom, mon cœur à l'une de vous, lorsqu'il est si cruellement déchiré? Oh, Socrate, quel précepte admirable mais difficile à suivre tu nous as donné quand tu as dit « connais-toi toi-même ». Depuis le jour où une malheureuse chanson avait si fort contrarié mon père, je n'avais pas fait usage de ma voix. En ce moment, il me vint à l'esprit de m'en servir comme d'un moyen pour discerner la vérité. Parbleu, pensais-je, puisque monsieur mon père m'a mis à la porte dès le premier couplet, c'est bien le moins que le second produise quelque effet sur ces dames. Ayant donc commencé par m'incliner poliment, comme pour réclamer l'indulgence, à cause de la pluie que j'avais reçue, je me mis d'abord à siffler, puis à gazouiller, puis à faire des roulades, puis enfin à chanter à tue-tête comme un muletier espagnol en plein vent. À mesure que je chantais, la petite pie s'éloignait de moi d'un air de surprise qui devint bientôt de la stupéfaction, puis qui passa à un sentiment d'effroi accompagné d'un profond ennui. Elle décrivait des cercles autour de moi, comme un chat autour d'un morceau de lard trop chaud qui vient de le brûler, mais auquel il voudrait pourtant goûter encore. Voyant l'effet de mon épreuve et voulant la pousser jusqu'au bout, plus la pauvre marquise montrait d'impatience, plus je m'égosillais à chanter. Elle résista pendant 25 minutes à mes mélodieux efforts. Enfin, n'y pouvant plus tenir, elle s'envola à grand bruit et regagna son palais de verdure. Quant à la tourterelle, elle s'était presque dès le commencement profondément endormie. Admirable effet de l'harmonie, pensais-je. Ô marais, ô écuelle maternelle, plus que jamais je reviens à vous. Au moment où je m'élançais pour partir, la tourterelle rouvrit les yeux. « Adieu, dit-elle, étranger si gentil, si ennuyeux. Mon nom est Gourouli, souviens-toi de moi. »« Belle Gourouli, lui répondis-je, vous êtes bonne, douce et charmante. Je voudrais vivre et mourir pour vous. Mais vous êtes couleur de rose. Tant de bonheur n'est pas fait pour moi. »